Et on va parler sport avec vous, Blaise, Monsieur Sport, sur notre radio, bien sûr. Et dans cette matinale, on va revenir sur les événements de la semaine et du week-end, des événements sportifs, bien sûr. Et au premier rang desquels, on va parler de la FIFA.
Et oui, Didier, on va parler de la FIFA, un énorme scandale. Et le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui est vraiment dans la tourmente à un an de sa probable future réélection, donc l'année prochaine. C'était mardi, hein, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a présenté un plan qui devait permettre d'augmenter à 10 milliards de dollars les moyens consacrés au développement du football au cours des 4 prochaines années. Sauf que le problème, c'est que pour y parvenir, la FIFA souhaitait créer une nouvelle société baptisée FIFA Forward Enterprise, chargée de gérer les activités commerciales et événementielles de l'organisation. Jusqu'à 20% de cette entité aurait pu être cédée à des investisseurs privés pour un montant pouvant atteindre 4,2 milliards de dollars. Ce sont des sommes pharaoniques, mais les grosses craintes au-delà de la gouvernance, c'est que plusieurs acteurs du football redoutaient une marchandisation accrue des compétitions. On a évidemment entendu le nom de Joshua Kushner, hein, qui préside un fonds d'investissement Thrive Eternal, lui qui est le frère de Jared Kushner, gendre de Donald Trump, qui figurait parmi les investisseurs potentiels évoqués. Alors évidemment, Donald Trump et Gianni Infantino, on les a vus très proches durant cette Coupe du Monde, une proximité régulièrement affichée, hein, cet été. Alors cette annonce, eh bien, elle a fait réagir, et notamment en Europe, où l'UEFA, qui est l'organe qui régit le football européen, s'est vivement opposé à cette annonce du président de la FIFA. L'UEFA, qui regroupe 55 fédérations, dont la fédération belge, a menacé à l'unanimité de boycotter les prochaines compétitions de la FIFA, y compris la Coupe du Monde 2030, si ce projet n'était pas abandonné. La CONCACAF, qui rassemble les fédérations d'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes, a aussi rejeté cette proposition. Vendredi, c'est la Confédération Asiatique, hein, qui s'est opposée à cette décision. On n'a pas eu de nouvelles de la part du football africain et de la part du football sud-américain, mais en tout cas, on a senti une véritable fronde de la part du football mondial face à cette décision. Gianni Infantino qui a rétropédalé un vendredi en disant que finalement il annulait ce projet, mais le président de la FIFA est grandement fragilisé alors qu'il était sur un tapis pour sa réélection l'année prochaine. Son numéro 2 et son numéro 3 se sont désolidarisés de lui et ont présenté leur démission. Il est donc seul face à tout le monde. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si quelqu'un va, de 1, avoir le courage de s'opposer à Gianni Infantino lors des élections l'année prochaine, et de 2, qui pourra se présenter face au grand Manitou du football mondial.
Bien, alors Blaise, une question qui me vient comme cela. Finalement, s'il est réélu, ça veut dire que c'est un chèque en blanc pour lui pour mettre en place cette utopie ou ce réajustement qui fait polémique?
Bah, vous l'avez vu, Didier, hein, il a rétropédalé, comme je le disais cette semaine, suite à la décision.
Oui, il n'est pas encore élu.
Non, mais il n'est pas encore élu, c'est vrai. Mais à mon avis, l'UEFA, enfin l'Europe, le continent nord-américain et l'Asie resteront sur cette décision de boycotter les compétitions organisées par la FIFA si le président Gianni Infantino continue là-dessus. Et puis Didier, je veux dire, la Coupe du Monde sans l'Europe, on n'imagine pas le parrain sans Al Pacino, quoi.
On est bien d'accord. J'aime bien l'image. C'est chouette. On va rester dans le foot, mon cher Blaise, puisque la semaine passée avaient lieu les tours préliminaires des différentes coupes européennes, dont la Champions League, l'UEFA League.
Pas encore la Champions League, non, Conference League et l'Europa League.
Oui, c'est juste la Champions, League, c'est cette semaine, puisque ouais. Demain, l'Union joue c'est contre...
Bodø/Glimt, à Ostende.
Alors, Cocorico, hein, parce que les Belges se sont brillamment qualifiés, et double Cocorico, parce que les Israéliens aussi, je me suis laissé dire.
Alors... oui, les Belges avec la Gantoise, hein, qui s'est imposée sans marquer de but, hein, 0-0 sur les deux rencontres face à Cherkasy, et donc la Gantoise qui s'impose au tir au but 4-2. Anderlecht également, hein, qui s'impose face à Hammarby après une première mi-temps assez décevante, hein, Anderlecht qui marque 3 goals qui marque 3 goals en deuxième mi-temps. On a donc les deux clubs belges qui se sont qualifiés la semaine dernière. Et puis du côté des clubs israéliens, ils étaient 3 à concourir. Il y avait le Maccabi Tel Aviv, le Betar Jérusalem et l'Hapoel Tel Aviv. Et pareil, les 3 équipes se sont qualifiées. Le Maccabi Tel Aviv a battu le Sheriff Tiraspol 1-0, ce qui porte le score cumulé à 6-0. Ça, c'était en Europa League. Et puis en Conference League, le Betar Jérusalem qui s'est qualifié également au tir au but comme la Gantoise, et l'Hapoel Tel Aviv qui s'est imposé qui a concédé le match nul face à Ludogorets, mais qui s'était imposé 2-0 au match aller. C'est donc du 5-5, hein, deux clubs belges et trois clubs israéliens qui se sont qualifiés. Et puis toujours on le rappelle que les clubs israéliens sont contraints de jouer leur rencontre à domicile en Géorgie et en Roumanie,
bien sûr. Et donc on l'évoquait juste avant que vous ne parliez des résultats positifs des clubs belges et israéliens. Champions League, tour préliminaire bien sûr cette semaine, avec un match aller des barrages de la Champions League, c'est bien ça pour l'Union?
C'est ça Didier, face à Bodo Glimt, l'Union qui recevra donc les Norvégiens de Bodo Glimt, qui était un peu la surprise de la dernière Ligue des Champions, hein. On se rappelle qu'ils ont tout de même été jusqu'en huitième de finale pour une équipe aussi petite entre guillemets. C'est assez impressionnant. Moi je serai au stade carrément pour voir le match.
Vous allez aller jusqu'à au stand?
Petite escapade maritime Didier.
C'est vrai qu'il fera moins chaud qu'ici, hein, ça c'est sûr.
mais c'est vrai que ça s'annonce être un très beau match entre deux équipes qui sont habituées aux joutes européennes sur ces dernières années. On aura aussi un chouette Olympique Lyonnais contre Sparta Prague demain qui aura lieu. Et puis voilà, pour l'instant pas grand chose à dire, hein. L'Union qui sort renforcée d'une victoire vendredi soir face au club Bruges.
Pas une victoire, ils ont remporté la Super Coupe, c'était match nul.
Ils remportent la Super Coupe de Belgique effectivement face à Bruges. Donc les unionistes arriveront remonter comme des coucous pour affronter Bodo Glimt.
Et justement, une question, c'est un tour de barrage ou bien il faudra encore passer par un autre tour préliminaire?
C'est le troisième tour de qualification, Didier, donc il faudra encore passer un tour après celui-là, hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a ces deux matchs là et puis l'Union qui aura encore un autre tour à faire. Et alors là vous me prenez un peu de cours, je n'ai pas les adversaires potentiels,
ça c'est pas très grave, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas, ils ne seront pas reversés en poule d'office après, non. Si jamais ils éliminaient Bodo Glimt, donc c'est une phase intermédiaire, on dira. Bruges, champion de Belgique sortant, lui passe un été tranquille puisque il connaîtra ses adversaires à la fin de ce mois-ci, je pense, puisqu'il y aura le tirage une fois que toutes les équipes qualifiées pour les poules le seront. Bien, on va dire un petit mot peut-être de la Supercoupe qui a eu lieu, c'était vendredi soir.
Oui.
C'était bien sûr au Jan Breydel Stadium, puisqu'on le sait, la Supercoupe oppose toujours le vainqueur du championnat au vainqueur de la Coupe. C'est la troisième année consécutive que les deux mêmes clubs se rencontrent, ce qui est assez unique dans les annales, hein, parce que voilà, actuellement, ce sont les deux meilleures équipes du Royaume, que ce soit Bruges et l'Union. Et effectivement, l'Union qui finalement a remporté au pénalty cette confrontation de la Supercoupe. Et comme on dit toujours, c'est peut-être un match de mise en route, mais il vaut mieux le gagner que le perdre, effectivement, ne fût-ce que d'un point de vue moral. Et donc, c'était une mi-temps pour chaque. L'Union qui a mené, si je ne m'abuse, le Bruges qui a mené 0-1, qui s'est fait rejoindre par l'Union. Et ensuite, les tirs au but en ont décidé autrement. Les tirs au but qui ont, bien sûr, été extrêmement bien tirés, puisque il n'y a personne qui a raté son pénalty. C'est le gardien unioniste qui en a sauvé un. Et donc, 5-4, donc 5 pénalty à 4 par l'Union qui remporte donc le premier trophée de l'année, qui lance traditionnellement la nouvelle saison, dont le coup de sifflet initial sera donné vendredi soir sur le coup de 20h45 et qui opposera une nouvelle fois le club de Bruges à domicile face à l'équipe de Courtrai. Et ça nous donnera l'occasion bien sûr de vous retrouver Blaise avec vos chroniqueurs toute cette saison pendant on joue la prolongation. Autre chose ou bien pas grand chose?
Je pense qu'on est bon.
On est bon. Ben merci beaucoup à vous. Je quand même voulais dire à nos auditeurs que s'il le souhaite, eh bien pour le moment a lieu le Tour de France féminin que vous pouvez suivre sur Eurosport et sur d'autres chaînes. Vous pouvez aller vous renseigner. Ça vaut la peine parce que
avec la très grande favorite Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique et qui a remporté le Tour de France l'année dernière.
Absolument.
Et qui fait partie de très très grandes favorites pour l'édition de cette année.
Oui, avec notre petite belge Lotte Kopecky, qui est bien conseillée, hein, parce que Axel Merckx n'est autre que son mari ou son copain, je ne sais pas si son mari, je crois qu'ils sont mariés maintenant, et donc elle peut bénéficier à la fois des conseils de son mari et de son beau-père qui n'est autre que Eddy Merckx, bien sûr.